Voilà, alors aujourd'hui nous avons Saint Augustin. Saint Augustin, une très grande figure de l'Église, évidemment. Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, les deux grands piliers de la théologie. L'un, 354-430, ça veut dire très ancien. L'autre, au Moyen-Âge, 1224-1274. Presque 800 ans après. Donc, il y a une grande distance. L'un plus platonicien, c'est Saint Augustin. L'autre plus aristotélicien. Ce sont les deux grands philosophes de l'Antiquité grecque, Platon, Aristote, suivi par Saint Augustin, Saint Thomas. Alors, comme vous avez vu, on a essayé de travailler un petit peu l'Écriture sainte. D'abord la Genèse, avec la création, la faute des premiers parents. Ensuite, le péché de David et de Bethsabée, un récit de confession, c'est ça l'intérêt, un récit de confession. La Bible est pleine de récits de confession, parce que c'est la confession, l'aveu, qui fait entrer dans la réception de la miséricorde de Dieu. Ensuite, on a vu dans le Nouveau Testament, avec l'Évangile, différentes attitudes de Jésus par rapport à ses guérisons, ses pardons, etc. Et puis dans le Nouveau Testament avec Saint Paul, nous avons vu différentes choses qui concernent voilà, les origines, le péché, le mal de l'origine. Maintenant, nous aurons Saint Augustin. Mais je dois d'abord un peu vous le situer dans un panorama. Et c'est pourquoi sur votre feuille de route, vous avez cinq noms propres que je vais un tout petit peu développer. Saint Irénée de Lyon, Mani, le fondateur du manichéisme, et Pélage, en vis-à-vis, Saint Augustin bien sûr au milieu, et puis tout à la fin, Isidore de Séville. Voilà donc les cinq personnages que je vais essayer de vous présenter, avec bien sûr au centre Saint Augustin. Après avoir étudié donc l'Écriture, on étudie la tradition. C'est comme ça qu'on fait d'habitude en théologie. D'abord, on lit l'Écriture sainte. On n'a pas eu le temps de tout lire, bien sûr. Voilà, on lit un peu l'Écriture sainte. Et puis, informé de cette inspiration de la révélation, on étudie les grands penseurs, les grands dogmaticiens, pourrait-on dire, mais aussi les pères de l'Église, les dogmaticiens, ceux qui ont essayé un peu d'organiser systématiquement, philosophiquement, dirais-je, rationnellement, le donné révélé. Mais sans que la raison ne vienne, je dirais, écraser, diminuer le donné révélé. Normalement, il doit le mettre en valeur. Il ne doit pas le couper ce qui ne l'intéresse pas et produire un système à lui. Dans la tradition, les penseurs essaient d'être parfaitement fidèles à l'Écriture sainte, à la révélation en fait. Alors, Saint Irénée de Lyon est un des tout premiers théologiens qui est décédé au début du IIIe siècle. Il dit lui-même qu'il connaît, si on veut, la tradition apostolique, parce que son maître c'était Polycarpe, qui était un disciple de Saint Jean. Donc nous sommes tout proches de Jésus-Christ. Jésus, Jean, Polycarpe, Irénée. Irénée de Lyon. Bien sûr, un oriental qui va en France, à Lyon. C'est un des premiers grands théologiens chrétiens qui écrit énormément, notamment pour réfuter la gnose. La gnose. Alors la gnose, c'est quoi? Eh bien, c'est justement des systèmes philosophiques qui partent un peu de la religion, de la révélation même, mais qui deviennent des systèmes à part entière, qui se tiennent par eux-mêmes et qui n'ont plus grand-chose à voir avec le cœur de la révélation. La gnose, c'est un savoir, un savoir un peu trop humain peut-être, mais qui prétend être salvifique. Ceux qui savent cela, eh bien, sont sauvés. Ceux qui ne le savent pas, ben, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, c'est malheureux. Il y a les gnostiques, ça c'est ceux qui seront sauvés. Et puis il y a les ignares, voilà. Alors, Irénée, justement, réfute la gnose. Et il fait tout un grand panorama de la révélation. Et pour la question du mal, il a une position intéressante, qui est plutôt minoritaire dans la tradition de l'Église, mais qui est intéressante, c'est, vous le voyez sur votre papier, le péché d'Adam, c'est un péché de jeunesse, c'est un péché d'enfance. Voilà, l'homme est bien fragile, il est bien ignorant. Sa faute est une faute d'ignorance, il est trop jeune dans l'humanité. C'est une erreur, c'est une faute, et la peine encourue est plutôt la décision de Dieu de lui proposer une pédagogie pour vaincre ses tentations et vaincre le mal qui le guette. C'est une pédagogie divine. C'est une vision donc, je dirais, beaucoup plus objective, moins dramatisante. À qui la faute ? Il est trop jeune, voilà, c'est normal. Mais on va l'aider, et la punition n'est pas tant une punition que, voilà, une prise en main, une prise en charge pour qu'il avance, pour qu'il progresse. Des théologiens très remarquables comme Martelet défendent plutôt cette position-là, dans une vision un peu théilardienne. Théard aussi est un peu dans cette ligne-là. Voilà, il faut que ça évolue, et on ne commence pas par le mieux. On commence par des choses imparfaites, partielles. Et donc, il faut que jeunesse se passe, si on veut, et l'homme va s'améliorer. Et la pédagogie divine est là pour surmonter tous ces obstacles. Donc une vision qui n'est pas très dramatisante, mais qui est dans la douceur de la pédagogie du père qui élève ses enfants. Donc ce n'est pas lui qui va, je dirais, majorer la question de l'apparition du mal dans le monde. C'est Saint Augustin, peut-on dire, qui va, le premier, inventer le concept de péché originel, de faute au début de l'histoire qui pèse maintenant sur tous les siècles à venir. Lui-même dit qu'il n'en est pas tout à fait l'inventeur, qu'il a trouvé dans la tradition qui le précède, déjà des éléments, bien sûr. Par exemple, Irénée, qui en a parlé d'une certaine façon, mais Augustin n'est pas d'accord. Si Augustin n'est peut-être pas l'inventeur du concept, il est au moins l'inventeur de la formule. Peccatum originale se trouve pour la première fois sous sa plume en 397 dans un écrit dont vous avez la référence dans le syllabus. Voilà, donc Augustin se réfère quand même à des penseurs qui l'ont précédé, tout en disant que, voilà, lui doit lutter contre deux tendance, une tendance manichéenne et une tendance pélagienne, et c'est à cause de cette guerre sur deux fronts à la fois qu'il va devoir en parler, et bien finalement il va prendre une position qui sera de plus en plus claire, mais peut-être aussi de plus en plus dure, de plus en plus pessimiste par rapport à ce concept. Et donc dans cette mesure-là, on peut dire que Augustin est un auteur décisif par rapport au péché originel. Il faut dire aussi qu'Augustin est un latin, enfin un africain, mais de culture latine, et que les latins sont davantage tentés de penser en termes juridiques, tandis que les orientaux pensent davantage en termes de maladie, de médecine. Voilà, l'homme est pécheur, ça veut dire qu'il est malade. Il va être sauvé, ça veut dire qu'il va être guéri. Tandis que pour les occidentaux, c'est davantage l'homme est pécheur, ça veut dire qu'il est coupable. Et donc il doit passer au tribunal, et il doit subir un jugement. Voilà, c'est un peu deux mentalités différentes. Et saint Augustin se trouve pris entre deux feux. Comme souvent, il est pris entre le feu de Mani et le feu de Pélage. Alors Mani n'est pas un contemporain de saint Augustin, Pélage est un contemporain de saint Augustin. Mani, au siècle précédent, a proposé une certaine vision du monde, qui est une vision manichéenne, où il y a deux principes, un principe du bien et un principe du mal, et ce sont des principes métaphysiques, ce sont des principes de l'ontologie. Le monde, le réel, eh bien, est divisé en deux principes d'égale force, semble-t-il, et qui sont en bagarre, qui sont en lutte. Mani est né en 216 dans l'Irak actuel et il a fait des disciples. Alors je ne vais pas vous expliquer toute la gnose, si on veut, toute la pensée de Mani, parce que c'est assez complet, assez imaginatif, hein. Mais dans un premier temps, les deux principes se tiennent l'un en face de l'autre sans conflit. Il y a le bien, il y a le mal dans cette espèce d'univers métaphysique, hein, d'en haut. Ils se tiennent l'un à côté de l'autre, ils ne se font de mal ni à l'un ni à l'autre. Mais à un moment donné, par jalousie, le principe des ténèbres déclare la guerre au principe du bien. Alors, afin de se défendre, le principe du bien envoie l'homme primordial combattre le principe du mal. Et dans cet homme primordial, le principe du bien met son âme. Et puis, l'homme primordial, eh bien, voilà, par émanation, est chargé d'aller lutter contre le principe du mal. Et puis alors, il y a des cascades, d'émanations, etc. Et donc, bon, des épisodes de la Bible sont repris dans cette vision un peu mythologique. Mais je ne vous en parle pas, si ce n'est pour vous dire qu'au total, eh bien, en bas de l'échelle, il y a les hommes que nous sommes. Hein. Et parmi ces hommes, eh bien, il y en a de trois sortes. Il y a les hommes pneumatiques, les hommes psychiques et les hommes somatiques. Les hommes pneumatiques, ce sont les spirituels. Les hommes psychiques, ce sont ceux qui vivent selon l'âme. L'âme, les sentiments, les passions, etc. Et les hommes charnels, les hommes somatiques, ce sont ceux qui vivent selon les pulsions, les instincts. Alors tout homme a ces trois éléments en lui, mais selon que l'élément prépondérant est l'esprit, ou l'âme, ou le corps, eh bien voilà, on est dans une classe. Alors pourquoi ? Ben c'est comme ça. C'est un peu le fatalisme. C'est une vision tragique parce qu'elle est marquée par le fatalisme. On est comme ça et on ne sait pas pourquoi, et c'est dramatique, mais que faut-il faire ? On n'en sait rien. Alors les spirituels, eux, sont sûrs d'être sauvés, les charnels sont sûrs d'être perdus, et les psychiques sont dans la tension. Et eux, il y a une espèce de liberté qui se joue là, mais qu'est-ce qui va en sortir ? On n'en sait rien. Alors, qui se reconnaît ici comme psychique ou charnel ou quoi ? Ben, on n'en sait rien, c'est pas écrit sur notre front. Mais eux le savent bien. Hein. Comment ils font, ça je ne sais pas, mais voilà, ils le savent. C'est une vision donc manichéenne où tout est joué d'avance dans le ciel de la métaphysique des deux principes, hein, où la liberté humaine n'est que le jouet de ses forces, et saint Augustin n'est pas d'accord avec cela. Il n'est pas d'accord, mais attention, pendant 9 ans, il a quand même été manichéen. Hein. Il a suivi tout le curriculum pour être manichéen. En fait, très jeune, et Augustin était un homme très intelligent qui voulait faire de la philosophie, être rhéteur, etc. Il a été un peu dans toutes les écoles, il a partagé toutes les philosophies, et la philosophie manichéenne, eh bien, il a été adepte pendant 9 ans. Alors il espérait être ordonné, dirais-je, prêtre de Mani, etc. Mais on tardait un petit peu, on ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, Augustin a dit, bah, s'ils tardent tellement, c'est qu'ils n'ont pas envie que je sois des leurs, donc je m'en vais. Grâce à Dieu, hein, donc il a quitté les manichéens parce qu'on ne l'ordonnait pas assez vite. Ben, c'était un grand bienfait pour nous sans doute. Ben, certains diront que non, enfin, on verra. D'autre part, un contemporain de saint Augustin qui s'appelle Pélage, qui est un moine irlandais, propose une autre vision. Une vision tout à l'opposé, dirais-je. Tous ces principes manichéens, lui, n'y croit absolument pas. Tout est bon, hein. Tout est bon au point de départ, et il y a la liberté de l'homme qui est libre, et puis c'est tout. Il n'y a aucune différence entre Adam, tel qu'il a été créé au paradis, et nous-mêmes, tel que nous naissons aujourd'hui. La nature n'a jamais changé. L'homme est toujours le même. Cet homme, il est bon par nature. Si Adam a commis un péché, eh bien c'est son affaire à lui, il n'a nui qu'à lui-même. Et si certains trouvent que, eh bien, il a une influence sur eux, ce n'est qu'une influence par imitation. Vous n'avez qu'à pas l'imiter, c'est tout. Vous êtes complètement libre de ne pas faire comme lui. Parce que votre nature est foncièrement bonne. Elle a toujours été. eh bien, faites ce qui est bien, c'est tout. Vous ne pouvez pas être tiré par un principe mauvais dans un sens que vous ne voulez pas. Ça, Pélage n'en veut pas. Donc l'homme est tout à fait lucide, il est tout à fait libre, il n'est pas déterminé. Et le Christ est venu, pour quoi faire? Pour nous montrer un meilleur exemple que Adam. Mais il n'est venu racheter, il n'est pas venu racheter la nature humaine. Parce que ça, c'est de nouveau, pour lui, c'est trop mythologique. Pélage est un rationaliste. Hein, est un rationaliste. Il dit un péché ne peut pas se transmettre, une liberté est libre, et puis c'est tout. Alors, avec ces principes, évidemment, eh bien, puisque l'homme est libre, puisqu'il sait ce qu'il doit faire, qu'il le fasse. Et donc, il est d'un grand rigorisme moral, en disant que l'homme est capable d'obéir au commandement de Dieu. Alors, pourquoi ne le fait-il pas? On n'en sait rien, mais il doit pouvoir le faire, et donc il doit le faire. C'est tout. Le baptême, évidemment, n'efface rien de ce qu'on appelle le péché originel. Il efface les péchés actuels, personnels, de l'adulte, s'il veut se faire baptiser, mais c'est tout. Hein, pas plus que ça. Dieu est juste. Il est dans une stricte justice. Il a donné des commandements. Et il est évident que s'il a donné des commandements, c'est qu'on peut lui obéir. Les commandements que Dieu donne, ce sont des commandements auxquels il est possible d'obéir. Sinon, Dieu serait fou, quoi. Il donne des commandements auxquels on peut obéir. Donc, obéissez, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu ne commande rien d'impossible. Vous voyez qu'il n'y a pas de cette lutte compliquée, subjective, pessimiste qu'il y a chez Augustin, comme je vais le dire, ni ce fatalisme qu'il y a chez Mani. Tout est clair pour Pélage. Hein. Et donc, l'impeccantia, le fait de pouvoir vivre sans péché, voilà ce dont on dit que seule la Vierge Marie et le Christ ont bénéficié, l'impeccantia, elle est accessible à tous. Ça dépend de vous. Et donc, son propos, il est rationaliste, optimiste, naturaliste, si on veut, tout sauf mythologique, tout sauf déchiré, tout sauf dramatique. Alors, nous avons justement saint Augustin qui se trouve pris entre les deux, sur la question du mal. Sur saint Augustin, donc, comme je vous ai dit, d'abord, il y a son expérience personnelle, l'expérience pécheresse de saint Augustin. J'ai mis en exergue une des toutes premières phrases des Confessions de saint Augustin. Saint Augustin aussi, évidemment, a une plume extraordinaire, une manière d'exprimer tout cela qui est magnifique. Hein. Notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. C'est une des toutes premières phrases des Confessions. Hein. Notre cœur est inquiet. Augustin est inquiet. Mais il trouve en Dieu le repos. Dieu l'attire dans son repos. Augustin, après une vie loin de Dieu, que pleurait sa mère sainte Monique, Augustin l'Africain est finalement baptisé à l'âge de 34 ans, en même temps que son fils Adéodat, 17 ans, sur un fils qu'il a eu hors mariage. Et il se fait baptiser, son fils a 17 ans, lui a 34 ans, ils se font baptiser ensemble parce que Augustin s'est converti. Il a été touché par la grâce. Son cœur était inquiet, son intelligence était inquiète. Il allait dans toutes les écoles de philosophie, platonicienne, manichéenne, stoïcienne et autres, jusqu'à ce qu'il soit converti, qu'il trouve la grâce de Dieu. Pendant ce temps-là, sa vie était une vie de péché, qu'il ne parvenait pas à maîtriser. Mais au moment de sa conversion, eh bien, la grâce lui semble irrésistible. Il n'y a pas moyen, cette fois-ci, de ne pas se retourner complètement et de vivre de la grâce. Saint Augustin donc éprouve la puissance de Dieu tout en éprouvant la faiblesse de l'homme. L'homme laissé à lui-même est absolument faible, il n'arrive pas avec sa volonté, son intelligence à vivre comme il faut. Mais dès qu'il est saisi par la puissance de Dieu et dès qu'il laisse Dieu le saisir puissamment, Alors, le miracle s'effectue. Le miracle de la grâce. Il y a au préalable un regard pessimiste sur l'homme, mais aussi une attente de la grâce de Dieu, avec la conviction que sa puissance peut nous retourner complètement. Augustin a une veine mystique aussi. Il fait l'expérience d'une liberté qui d'abord s'échappe à elle-même, dans le péché, et puis qui est comme attirée irrésistiblement vers Dieu. Et en effet, à partir de ce baptême, à 34 ans, eh bien, il mène une vie de sainteté. Et lui qui était un baptisé de fraîche date, 34 ans, eh bien, sera évêque à 43 ans. Vous imaginez la trajectoire, hein ? Ça va plus vite que chez les manichéens. Hein ? Donc, il continue chez les chrétiens, et il prêche, et il écrit, etc. Il a l'impression qu'il a toujours été devancé. Devancé par quoi ? Devancé par le péché. Lorsqu'il ne pouvait pas résister au péché, il était devancé par le péché. Et lorsqu'il a été saisi par le Christ, il a été devancé par sa grâce. L'idée de la grâce prévenante. Tout homme est sollicité sans cesse par la grâce prévenante de Dieu. Dieu n'attend pas que nous soyons bons pour nous solliciter par sa grâce. Sa grâce nous prévient à tout moment et vient nous solliciter, nous inviter à cette conversion, à cette sainteté dont nous ne sommes pas capables par nos propres forces, mais seulement si nous nous ouvrons à cette grâce. Alors il a des passages merveilleux, comme de regretter le temps qu'il a perdu dans le péché, maintenant qu'il est dans la grâce. Vous avez cette très belle page des confessions, « C'est ôté à ma vie. Trop tard, je t'ai aimé, beauté infinie. Trop tard, je t'ai aimé. Toi, tu le savais. Toi, tu me voyais. Toi, tu me voulais. Tu m'aimais et je ne t'aimais pas. Tu m'aimais et je ne le savais pas. Tu m'aimais et je n'en voulais pas. » Voilà, découvrir son péché, pour lui, c'est découvrir qu'on est aimé. C'est découvrir qu'on est aimé de tout temps, par avance, de toujours à toujours, malgré notre péché. C'est l'amour qui nous donne cette connaissance de notre péché, en même temps qu'elle nous donne la force de nous convertir de notre péché. Le péché nous aveugle, lorsque nous nous ouvrons à la grâce, nous voyons en même temps le péché, mais bien plus loin, nous voyons cette conversion, et c'est celle-là qui nous attire. Et donc, vous voyez la prière que nous essayons souvent de formuler, de dire « Dieu, je t'aime, je vais essayer de t'aimer mieux, etc. » Eh bien, peut-être que ce ne serait pas plus mal de dire « Dieu, tu m'aimes. Je fais ceci, je fais cela, oui, ceci est bien, ceci peut-être moins bien, mais tu m'aimes. » Ça, c'est le principe. Ce n'est pas « je t'aime, j'essaie de t'aimer, mais tu m'aimes, essaie de voir où Dieu m'aime, comment il m'aime. » Mais bien sûr, cette conversion qui s'est opérée de manière très puissante n'enlève pas chez saint Augustin cette inquiétude de son cœur de se dire que tous les hommes sont en lutte entre le péché et la grâce. Ils sont en lutte, dans une lutte dramatique. Et il trouve chez saint Paul, saint Augustin est un grand commentateur de saint Paul, comme d'ailleurs Luther est un grand commentateur de saint Paul à travers saint Augustin, c'est la veine paulinienne. Il ne cesse de commenter Romains 7, 8, les chapitres de l'Épître aux Romains 7 et 8, dont je vous lis un petit extrait que vous avez sur votre feuille. C'est très célèbre, c'est la lutte intérieure. Alors, est-ce que c'est de celui qui n'est pas encore chrétien qui veut le devenir ? Ou c'est le chrétien qui est déjà chrétien mais qui ne l'est pas encore assez ? On ne sait pas trop. En tout cas, voilà, je vous lis. « Car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur. J'aime la loi de Dieu. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. » Vous voyez donc, d'un côté, la loi de Dieu, la loi de la raison, et de l'autre la loi des membres, la loi du péché. Et voilà, je veux faire le bien, mais je n'en suis pas capable, je ne veux pas faire le mal, mais je le fais quand même. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est que cette lutte que Paul décrit très bien en Romains 7-8? Ce sont des pages extraordinaires. Hein. Ayant dit cela, malheureux homme que je suis, dit saint Augustin, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Point d'interrogation. Réponse, la grâce de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors pour les exégètes, cette formule vient, est une des leçons, hein, une des versions de ce verset 25, parce que ça pourrait être « Grâce soit à Dieu, hein, par notre Seigneur Jésus-Christ », mais il y a moyen de le lire dans certains manuscrits par « Qui me délivrera ?» Eh bien, c'est la grâce de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui me délivrera. Ce passage, saint Augustin l'a commenté au moins 225 fois dans ses œuvres. Évidemment, ces œuvres, ça fait pas mal de kilos, hein, donc c'est à peu près 1 mètre, certainement, d'œuvres là, dans la bibliothèque, donc ça fait quelques pages, mais il l'a commenté au moins 225 fois. Alors, parfois, très brièvement, hein, il le prend à titre d'argument dans un autre raisonnement, mais parfois, c'est très long. Et donc, vous voyez qu'il est fasciné par ce passage de l'Écriture, et je vous lis dans les Confessions un petit passage qui commente ces deux versets, ces deux ou trois versets. Donc dans les Confessions, au livre 8, paragraphe 21-22, voilà, cette lutte qui est en moi. Je veux faire une chose, je ne la fais pas. Je ne veux pas faire une chose, et je la fais. Qu'est-ce que c'est ça? D'où vient ce prodige monstrueux? L'esprit commande au corps, on lui obéit sur le champ. L'esprit se commande à lui-même et on lui résiste. L'esprit commande à la main de se mouvoir et il y a une telle facilité dans l'obéissance qu'on distingue à peine l'ordre de l'exécution. Hop, l'esprit et le corps, facile. Pourtant, l'esprit est esprit, tandis que la main est corps. Donc il y a quand même un écart. Non, l'obéissance est parfaite. L'esprit commande à l'esprit de vouloir. C'est bien le même esprit. L'esprit commande à l'esprit. Et cependant, il ne le fait pas. D'où vient ce prodige monstrueux? C'est que l'esprit ne veut pas à plein. Donc, il ne commande pas à plein. Car il commande dans la mesure où il veut. Et ce qu'il commande ne se fait pas dans la mesure où il ne le veut pas. En effet, si la volonté était pleine, elle ne se commanderait même pas d'être, puisque déjà elle serait. Il n'y a pas de prodige monstrueux dans cette volonté partielle qui veut et ne veut pas. Mais c'est une maladie de l'esprit. De l'esprit qui ne se dresse pas tout entier quand la vérité le soulève, parce que l'habitude l'alourdit. Il y a donc deux volontés parce qu'aucune d'entre elles n'est totale. Et que ce qui est présent dans l'une est absent dans l'autre. Pour moi, quand je délibérais en vue de servir enfin le Seigneur mon Dieu, comme je m'y étais depuis longtemps disposé, c'était moi qui voulais, moi qui ne voulais pas. C'était moi. Et je n'étais pas pleinement à vouloir, ni pleinement à ne pas vouloir. Voilà l'idée de la volonté pleine, de l'esprit entièrement possédé d'une chose et qui commande à une volonté qui dans ce cas-là est pleine et qui fait la chose comme sans s'en apercevoir. En effet, quand vous faites quelque chose avec effort, que vous vous dites « bon, allez, je dois l'étudier, ça m'embête, enfin, je vais étudier, bon, allez, je le fais plus ou moins et tout », vous avez l'impression de gagner beaucoup de mérite, d'être méritant et tout ça, bon, c'est vrai. Mais celui qui aime étudier dit « Ah, maintenant je vais étudier, bon, j'y vais, etc. » C'est beaucoup plus facile. Qui a la plus grande volonté? Celui qui doit s'en servir le moins. Ça, c'est très curieux. Hein? Celui qui fait les choses avec facilité, ben oui, en fait, il a la plus grande volonté, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Tellement c'est facile, hein? Parce que entre le désir de faire une chose et le faire, ça va tout seul. Quand on n'aime pas, quand on veut à moitié, on a l'impression de faire beaucoup d'efforts de volonté, mais c'est une volonté qui marche à moitié, justement. Augustin se trouve donc précédé par le péché, mais délivré par la seule grâce de Dieu qui le prévient aussi. Car son désir même d'être délivré, tout impuissant qu'il était, venait déjà de Dieu. Son désir, lorsqu'il n'arrivait pas à l'effectuer, à l'exécuter, son désir déjà venait de Dieu. Cette lutte qu'il y avait en lui était déjà une lutte de la grâce en lui. Et donc, saint Augustin en conclut un peu que le péché adamique n'est pas seulement une histoire du passé. Cette hésitation entre le bien et le mal, la connaissance du bien et du mal et tout ça, ce n'est pas une histoire du passé, c'est l'expérience précise d'une volonté propre maintenant divisée, étrangère à elle-même. Lorsque Augustin est là, ou moi, avec mes études, à vouloir et ne pas vouloir, nous sommes Adam. Nous sommes Adam devant la tentation. Ce n'est pas une expérience qui est reculée dans le temps, c'est une expérience de tous les jours que nous faisons. Alors j'ajouterai que Augustin exprime souvent tout ceci dans les termes de la lutte contre les passions de la chair, contre les passions charnelles. L'expérience de cette liberté en lutte, c'est d'abord l'expérience de la puissance de la chair, des pulsions sexuelles. On a reproché à Augustin d'avoir ainsi mis tout l'Occident sur la voie d'une aversion pour la chair et la sexualité. Et il est vrai qu'Augustin porte ici une lourde responsabilité, parce que il voit souvent les choses comme cela. Mais, sans vouloir le défendre outre mesure, nous savons bien qu'il n'y a pas que l'Occident ou que le christianisme qui a un problème avec la sexualité. C'est une dimension anthropologique, universelle, extrêmement complexe, et où se reflète énormément de tensions de l'être humain. Dans toutes les anthropologies de l'histoire, je crois qu'il y a une dimension essentielle qui se trouve là dans la sexualité et qui est toujours en même temps une dimension problématique. Parce que foncièrement, c'est la dimension de l'altérité, de la rencontre, de la relation. Et que tout cela n'est pas facile, évidemment, et que ça nous sort de notre solipsisme. Mais comment ? Comment sortir de ce solipsisme ? Quand on va en Inde, dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme tantrique, etc., on a aussi sa bonne dose de spéculation sur la sexualité et la chair. Les origines du péché. Donc voilà d'abord l'expérience pécheresse de saint Augustin, l'expérience qu'il y a un péché en lui, qui l'a précédé, mais qui est le sien aussi. Le péché l'a précédé, mais il est le sien aussi. Et il y a une lutte, et une lutte qui ne peut être remportée que par la grâce en nous. Mais alors ce péché qui nous a précédé, ce mal qui nous devance, d'où vient-il ? Eh bien, il vient de plus haut que nous, de plus loin que nous. Il va nous parler des anges. Alors, voilà, nous allons entrer dans un sujet ici peut-être un peu plus difficile, certains seront peut-être sceptiques, d'autres enthousiastes, je ne sais pas, on verra. Mais essayons de voir ce que saint Augustin en dit par lui-même, avant de juger. D'abord, Augustin accorde une grande importance aux anges dans sa réflexion sur la création. Alors, ce n'est pas parce que les anges ont des plumes, ni parce que je ne sais pas quoi, c'est parce que les anges sont des esprits. Des esprits. Ça, l'esprit, il sait ce que c'est. Et nous, nous sommes des esprits dans la chair. Or, les esprits que sont les anges sont des esprits purs, sans la chair. Donc, il y a une parenté entre notre intelligence spirituelle et leur intelligence spirituelle, avec pourtant une différence immense. Mais donc, il se trouve une parenté avec ces esprits que Dieu a créés, et qui sont donc dans l'ordre de l'intelligible, de l'intelligence, du spirituel, du volontaire. Aujourd'hui, l'homme peut croire qu'il est intelligent, bon, sans doute, oui, et tant mieux s'il l'est, hein. Mais est-ce que, pour autant, tout ce qui est intelligible est de son ressort? Est-ce que toute l'intelligence se trouve sous la forme humaine? Le monde est intelligible, nous savons bien que le monde, même inanimé, hein, est guidé par des lois extrêmement précises, etc. Tout l'univers, même matériel, est transi d'une intelligibilité que nous avons de la peine à saisir, que notre intelligence tente de saisir un petit peu. Mais nous savons très bien que notre intelligence ne coïncide pas avec tout ce qui est intelligible dans le réel, même dans le monde physique. Hein. Notre intelligence peine à saisir tout ce qui est intelligible. Pourquoi devrions-nous croire que nous sommes les seuls à être capables de tirer l'intelligible de ce monde intelligible? Pourquoi devrions-nous croire que ce que nous avons dans notre raison, c'est le seul raisonnable possible? Bien sûr, je parle toujours avec saint Augustin, il y a une sage démythologisation peut-être à effectuer sur certains aspects. Mais pourquoi ne pas admirer la création, même matérielle, dans son intelligibilité insaisissable, comme un tremplin vers cette création peut-être spirituelle qui nous dépasse? Pourquoi croire orgueilleusement et peut-être assez médiocrement finalement que tout le rationnel coïncide avec l'intelligence humaine? Même aujourd'hui, beaucoup de penseurs reconnaissent que notre intelligence est loin de tout connaître, évidemment. Alors il y a bien sûr le mythe un petit peu du scientifique qui dit demain on expliquera que, mais enfin on dit demain depuis déjà assez longtemps, hein. Mais on avance, c'est vrai, on avance. Mais parfois plus on avance, plus on a des questions. Voilà, ce monde magnifique ne se mesure pas à la part d'intelligence que notre humanité est capable d'en saisir. La beauté du monde ne s'épuise pas dans le regard furtif que l'homme porte sur lui. Ce monde est contemplé, loué, chanté, peut-être par d'autres intelligences que les nôtres, les intelligences spirituelles. Notre vision du cosmos est souvent trop anthropocentrique. Nous croyons que la gloire de la création, c'est d'avoir fait émerger l'homme sur cette terre. Saint Augustin n'a pas du tout cette vision, il croit au contraire que l'humanité, c'est la brebis perdue des intelligences spirituelles. C'est la centième brebis qui s'est perdue. Et que toutes les autres brebis qui sont restées au ciel, elles sont bien plus valables et bien plus intelligentes que nous, si on veut, et que nous ne sommes peut-être que la partie la plus obscure et la plus pauvre de la création intellectuelle et spirituelle. Enfin voilà, ça c'est pour un peu la vision que saint Augustin a des anges. Je vous ai dit qu'il y aurait une leçon entièrement consacrée aux anges et aux démons. Et voilà déjà un petit apéritif. Alors, pour ces intelligences spirituelles pures, où pourrait venir le défaut de la volonté qui fait que on dit non à Dieu plutôt que d'entrer dans son dessein? Alors il va parler de la cause déficiente. Nous allons regarder le texte que je vous ai inscrit ici, Genèse 1, 3, 4, 5, et puis Genèse 14 à 18. Je vais lire le texte et puis je vais vous demander la différence qu'il y a entre les deux parties de ce texte, parce que dans les deux parties, on crée la lumière. Pourquoi est-ce que Dieu a créé deux fois de la lumière? Est-ce qu'il y a des différences dans le texte, vraiment au niveau des indices littéraires, si on veut. Alors, tout au début de la Genèse, il y a deux versets derrière nous. Au troisième, on a « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Tout le monde connaît ce verset. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Il y a un deuxième et un troisième jour. Et puis, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire, le soleil comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Puis un cinquième jour, puis un sixième jour qui se termine par le sixième jour. Et Dieu vit que cela était très bon. Très bon. Alors, quelles sont les différences littéraires que vous auriez perçues entre les versets 3, 4, 5 et les versets 14 à 18? Puisqu'il s'agit chaque fois de la création de la lumière.
Il y a un commandement.
C'est la lumière qui
est la lumière sur
celui-là. Oui, Dieu vit que la lumière était bonne, d'accord. Et Dieu vit que cela était bon.
La lumière, donc pas les principes de la lumière.
Ça, c'est un premier indice, oui. Il vit que la lumière était bonne. Et le cela, c'est quoi au fond, le cela?
C'est les luminaires.
C'est les luminaires, mais c'est aussi le jour et la nuit. Bon, ça, c'est un premier indice. Un deuxième indice?
Singulier.
La lumière, c'est pas.
Donc, premier jour, deuxième jour, là, est précédé par quoi?
Il y eut un soir,
il y eut un matin, et encore avant ça, vous trouvez
l'intelligence, la connaissance.
Pardon ?
Il nomme.
Oui. Regardez dans le premier verset, qu'est-ce qui est bon ? C'est la première partie du verset, pas la seconde. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et puis on ne dit pas encore, soir, matin, premier jour. Il y a encore quelque chose qui se passe que l'on ne qualifie pas de bon. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il vit que cela était bon? Non. Ça, il n'a pas vu que c'était bon. Il eut un soir, il eut un matin, premier jour. Tandis que dans la deuxième création des luminaires, qui sont en fait la lumière matérielle, dans la seconde création, c'est la lumière matérielle, le soleil, la lune, les étoiles, là tout est bon. Tandis que dans la première création, donc il n'a encore rien créé du tout, hein, on est avec la lumière et les ténèbres. Alors selon lui, eh bien cette lumière que Dieu a créée, c'était quoi?
Maintenant, avant ça, il y avait au commencement la terre, cette informe et vide, et l'esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc on n'est pas dans le réel.
D'accord, il y a, je sais bien qu'il y a deux versets avant celui-là, mais je me concentre à partir des trois pour ne pas trop mettre deux trucs ensemble. Hein. Ce que saint Augustin considère, c'est que la première lumière qui est créée, parce qu'il y a quand même deux lumières qui sont créées, hein, et de ténèbres. La première lumière, c'est une lumière spirituelle, c'est-à-dire finalement les anges. Ce sont les anges, ce sont les créatures lumineuses des anges. C'est la première création, la toute première. Avant ça, il y avait le tohu-bohu et le merakhefet, oui, l'esprit qui planait sur les eaux. Mais la toute première création, c'est la lumière. Et Dieu vit que cela était bon, et puis tout à coup il y a des ténèbres à côté. C'est quoi ces ténèbres? Ce sont ces intelligences spirituelles qui sont déchues. Et que Dieu doit séparer. Et dont il ne dit pas qu'elles sont bonnes, parce qu'elles sont mauvaises. Alors il y a eu un soir, un matin, premier jour, d'accord, mais là, ben, c'est le seul endroit où ben, il y a quelque chose qui n'est pas déclaré bon.
Oui, mais comment est-ce possible, puisqu'il est dans la création?
Eh bien, comment est-ce possible? Eh bien, ça, c'est, d'après saint Augustin, hein, l'indice que se trouve là, une liberté qui n'a pas voulu être bonne, qui est dans ces ténèbres, dans ces lumières qui sont devenues ténèbres. Alors, je ne dis pas que son explication est transparente, hein, mais je vous dis que... Non, mais je vous dis que c'est très malin, que c'est très malin, et que je trouve qu'il y a là vraiment... quelque chose de subtil, alors je ne dis pas que c'est absolument convaincant pour tout le monde, mais vous voyez comment il cherche la création des anges quelque part. Hein. il ne la voit pas. Et puis tout à coup, il voit que, oui, il y a deux lumières. Et bien, la première lumière, c'est la création des anges. Mais c'est quand même curieux que ce soit le seul verset où tout n'est pas déclaré bon, hein, mais que dans cette toute première création, il y a une partie qui est mise en dehors de la bénédiction, tout ça était bon. Et bien pour lui, cela c'est les anges qui ont été créés lumineux, Lucifer, hein, c'est celui qui porte la lumière, et qui ont été déclarés bons, et puis ont eu un acte de liberté transcendantale, si j'ose dire, ça veut dire indépendant de tout déterminisme, de toute condition, de toute inclination, hein, qui a vraiment été un acte mauvais. Alors comment imaginer qu'une liberté pure, comme celle de l'ange, hein, est un mouvement mauvais? Alors voilà comment je me l'explique. Je vais vous faire un petit schéma. De nouveau, on ne va pas tout expliquer, mais ça peut être éclairé certains esprits. Si je mets Dieu ici comme source de tout, et ça je mets, ça c'est le créé, ça c'est donc l'incréé. Alors en dessous, je vais mettre le néant. Vous allez me dire comment ça se fait, j'en sais rien. Bon, je mets ici le néant. Hein. Alors, selon Grégoire de Nice et d'autres auteurs, hein, ils expliquent que Dieu tire du néant les créatures. Bon, c'est un peu des concepts imaginaires, enfin, peu importe. Voilà, Dieu crée hors du néant une créature dans le créé. C'est un mouvement, Dieu crée, il crée d'ailleurs continuellement, hein. Nous sommes créés sans arrêt. Voilà, donc Dieu crée hors du néant une créature. Cette créature, elle est créature. Et elle doit savoir qu'elle est créature et adhérer à son état de créature. Et le danger, c'est l'écart de création, dirais-je. Ça, c'est l'écart du danger, hein. L'écart de création, parce que cette créature ne tient que si continuellement elle se sait venant de cette source. Que si cette créature se regarde en voyant d'abord la source dont elle vient. Si la créature se sait créature et se regarde comme créature en sachant d'abord que c'est Dieu sa source, eh bien, elle tient dans la création. Si la créature se trouve tellement belle, ce qu'elle est d'ailleurs, hein, se trouve tellement belle qu'elle se regarde comme se venant d'elle-même, sans honorer, je dirais, dans cette admiration d'elle-même, le Créateur, eh bien, il y a ce mouvement-ci, je dirais, qui se fait. Hein, elle se regarde elle-même et elle risque à ce moment-là de retomber dans le néant. Parce qu'elle ne veut pas, enfin bon, se raccrocher continuellement à cette source, qui est cette source qui la maintient dans la création, et qui la tire constamment de ce néant. Alors de nouveau, je suis d'accord que ce n'est qu'un schéma, hein, mais je crois que ce schéma montre bien que le créé ne tient dans toute sa consistance que si sans cesse, elle se réfère, hein, il se réfère à la source. Et qu'à partir du moment où la créature se regarde elle-même et veut être sa propre source, eh bien, elle risque de se perdre. Parce qu'elle n'a pas ce point d'accrochage, je dirais, qui la maintient dans l'être. Alors, je mets ça en rapport avec les 4 degrés d'amour de Saint Bernard. Est-ce que vous connaissez les 4 degrés d'amour de Saint Bernard? Saint Bernard dit qu'on doit apprendre à aimer en gravissant 4 échelons. Alors ça commence toujours par l'amour de soi, hein. Bon, c'est pas très glorieux, mais enfin, voilà. Mais c'est quand même déjà un amour, dit-il. L'amour de soi. Mais alors, bien sûr, on se rend compte que c'est de l'égoïsme, on veut en sortir, et on trouve que on sera encore plus beau, et plus fort, et plus intelligent si on aime Dieu. mais on aime Dieu pour soi. Donc on fait ce mouvement-ci, hein. Donc de celui-là, on fait ce mouvement-ci, mais pour s'assurer soi-même, je dirais dans l'être. Hein. Le troisième degré, c'est aimer Dieu pour lui-même. On se rend compte que c'est un bourgeois de Dieu et encore relativement égoïste finalement. Hein. Il ressemble encore un peu trop à l'amour de soi. Donc aimer Dieu pour lui-même, en s'oubliant. Alors quel est le quatrième degré d'amour? Et ça, c'est quand même assez fort, je trouve, hein, de la part de Saint Bernard. Ça reprend tout, ça synthétise tout, et c'est l'amour de soi en Dieu. S'aimer en Dieu. Donc c'est s'aimer, bien sûr, mais c'est s'aimer à partir de Dieu, et en Dieu, et pour soi aussi d'ailleurs. Hein. Donc ce quatrième degré d'amour, c'est s'aimer en Dieu. Et donc c'est aimer Dieu parce qu'il est mon créateur, hein, et s'aimer soi-même parce que je suis une créature de Dieu. Alors voilà, je crois qu'on pourrait penser ce péché des anges comme une auto-admiration qui ne passe pas par une admiration de Dieu d'abord. Hein. Quelque chose comme ça. Comme je vous ai dit, Saint Ignace nous fait méditer le péché des anges. De la même manière, ce n'est pas pour le plaisir de commencer à compter le nombre de myriades d'anges qu'il y a et de dire que les uns ceci, les autres cela. C'est pour réfléchir, je dirais quasi transcendantalement, à ce qu'est une liberté pure. Alors notre liberté, nous savons bien qu'elle n'est pas pure au sens où il y a toujours des inclinations, il y a toujours des habitudes, il y a toujours des... bon, toutes sortes de choses. Mais nous savons bien que dans certains de nos actes, qui sont parfois très petits d'ailleurs, hein, nous engageons vraiment notre liberté, notre oui ou notre non. Et nous le savons. Nous savons qu'à certains moments, parfois nous sommes méchants parce que nous le voulons. Voilà, parce que c'est comme ça. Tout me dit que c'est absurde, tout me dit que ça va avoir des mauvaises conséquences, et bien tant pis, moi je le fais. Il y a des moments où on agit comme ça. Ou à l'inverse, au contraire, hein. Des moments où on dit, c'est absolument fou de donner tout à cette personne ou bien de m'engager dans ce bazar ou quoi, mais je le fais. Je le fais. Et on verra bien ce qui se passe, mais je veux aider ou je veux dire cela ou je veux pardonner ou je veux... voilà. Et je crois que ce sont ces moments de liberté pure que Saint Ignace veut nous faire méditer dans la méditation des anges et que Saint Augustin aussi, d'une certaine manière, essaye de nous faire approcher par toutes ces réflexions sur les anges. Cet écart de création. Vivre comme un être autonome, bien sûr, hein, notre modernité insiste beaucoup sur l'autonomie, mais vivre comme un être autonome et responsable, mais en sachant toujours d'où nous venons. De ne jamais laisser glisser notre regard du haut vers le bas sur nous-mêmes. De tout à coup nous préférer à notre source. De toujours vivre dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans le don, hein, et dans le don par reconnaissance et par gratitude. Alors c'est ça la cause déficiente. Hein. La cause déficiente, c'est pas que on a voulu faire quelque chose de mal, c'est qu'on n'a pas bien fait ce qu'on avait à faire. Hein. On devait s'admirer et se regarder, mais dans le miroir de Dieu, de l'amour de Dieu et pas en nous-mêmes. Alors je passe sur le verset de Romains 5, 12, qui est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais nous avons donc là une formule grecque, le FO. Que vous voyez là en 3A, le FO, ça veut dire sur lequel ou quelque chose comme ça, hein, dans lequel, bon, qui a été traduit par, en latin dans la Vulgate par le in quo. Et donc nous avons le verset Romains 5, 12 qui finalement déclare que Adam est celui en qui tous ont péché. En qui? Nous avons péché en Adam. Donc tous les hommes ont péché. La mort est entrée, elle est passée dans tous les hommes qui ont tous péché en Adam. C'est un peu mystérieux, je le reconnais. Hein? Mais donc c'est le péché d'Adam qui nous contient et qui fait que nous allons mourir, etc. Hein? Le in quo latin ne traduit pas du tout comme il faut le fo grec. Les latins se sont beaucoup cassés la tête sur ce in quo, mais aucun des pères grecs n'a interprété ce texte comme l'a fait saint Augustin. Or, les pères grecs connaissaient leur grec sans doute, hein. C'est un gros avantage, hein. Ils connaissaient le grec du Nouveau Testament. Et donc, les exégètes, parfois, se rendent compte que les latins, ont fait des erreurs par rapport aux grecs. Et certainement que l'idée que tous les hommes ont péché en Adam, qu'Adam contient tous les hommes pécheurs dans son péché, c'est une idée qui provient peut-être en partie, hein, de cette erreur de traduction. Il faut traduire « la mort est passée en tout homme parce que tous les hommes ont péché ». Du fait que tous les hommes ont péché, comme Adam. Ce n'est pas parce qu'Adam a péché que tous les hommes, hein, vont mourir, c'est parce que Adam va mourir parce qu'il a péché et tous les hommes vont mourir parce qu'ils ont tous péché. Voilà, ça c'est un petit peu la teneur du texte lui-même. Alors je vois que le temps passe très vite, mais je dois absolument vous expliquer encore la question de l'immortalité. Donc, selon saint Augustin, il y a trois états de nature. Il y a l'homme avant le péché originel, il y a l'homme après le péché originel et avant la résurrection, et puis il y a l'homme après la résurrection. Vous avez donc là trois colonnes, si vous voulez. La première, vous avez posse mori et posse non mori. En latin, ça veut dire que l'homme était dans la situation de ou bien pouvoir mourir ou bien pouvoir ne pas mourir. Il était devant un choix, et selon le choix qu'il allait faire, il allait soit mourir, soit ne pas mourir. C'est savoir la question de savoir si Adam était immortel, etc. Mais comme il a fait le mauvais choix, maintenant il doit mourir. Non posse non mori, il ne peut pas ne pas mourir. Et à la résurrection, nous serons dans l'état de ne plus pouvoir mourir. Nous ressusciterons pour toujours non posse mori. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est les deux premiers, hein, qui sont en parallèle. Selon saint Augustin, l'homme a été créé mortel, immortel, je dirais il a été créé mortalisable ou immortalisable. Hein, pour utiliser un drôle de mot, mais qui fait bien comprendre qu'il pouvait mourir, il pouvait ne pas mourir, ça dépendait de sa conduite. Et s'il ne mourrait pas, eh bien, ce serait par grâce de Dieu, ce ne serait pas par nature. Sa nature était faite pour pouvoir mourir. Mais elle aurait aussi pu ne pas mourir, mais je dirais par un miracle dans ce cas-là, une espèce de miracle de grâce. Alors vous trouverez dans le syllabus les textes très clairs de saint Augustin qui parlent de cela, et qui vont vraiment dans le sens de ce que je vous ai dit sur Peggy. Peggy qui considère que la mort aurait été un tranquille départ. Un passage vers Dieu sans angoisse et sans douleur spéciale, un passage vers Dieu. Mais donc voilà, nous étions, Adam était devant l'alternative, ou bien il recevait le don d'une mort tranquille en ne péchant pas, ou bien il entrait dans l'obligation de mourir et de mourir aussi avec des angoisses, hein, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je vais vous parler de la masse Adam latin. Je préfère laisser ça pour notre méditation dans le syllabus, parce que c'est un sujet difficile. Et si nous nous embarquons, ça durera au moins 10 minutes. Voilà, je crois qu'il y a assez d'éléments dans le syllabus pour cela. Nous allons faire une petite pause.